m'apercevant que mes concitoyens n'allaient vraisemblablement pas m'offrir de place à la mairie, pas plus qu'ailleurs de vicariat ou de cure, mais qu'il me fallait me tirer d'affaire comme je pourrais, je me retournai de façon plus exclusive que jamais vers les bois, où j'étais mieux connu. Je résolus de m'établir sur le champ sans attendre d'avoir acquis l'usuel pécule, en me servant des maigres ressources que je m'étais déjà procurées. Mon but, en allant à l'étang de Walden, était non pas d'y vivre à bon compte, pas plus que d'y vivre chèrement, mais de conclure certaines affaires personnelles avec le minimum d'obstacles, et qu'il eût semblé moins triste qu'insensé de se voir empêché de mener à bien par défaut d'un peu de sens commun, d'un peu d'esprit d'entreprise et de tour de main. Je me suis toujours efforcé d'acquérir des habitudes strictes en affaires. Elles sont indispensables à tout homme. Est-ce avec le céleste empire que vous trafiquez? Alors quelques petits comptoirs sur la côte, dans quelques ports de Salem, suffira comme point d'attache. Vous exporterez tels articles qu'offre le pays, rien que des produits indigènes, beaucoup de glace et de bois de pin, et un peu de granit, toujours sous pavillon indigène. Ce seront là de bonnes spéculations. Avoir l'œil sur tous les détails vous-même en personne. Être à la fois pilote et capitaine, armateur et assureur. Acheter et vendre, et tenir les comptes. Lire toutes les lettres reçues, écrire ou lire toutes les lettres envoyées. Surveiller le déchargement des importations nuit et jour. Se trouver sur nombre de points de la côte presque à la même heure. Il arrivera souvent que le fret le plus riche se fera décharger sur une plage du New Jersey. Être votre propre télégraphe, balayant du regard l'horizon sans relâche, élant tous les vaisseaux qui passent à destination de quelques points de la côte. Tenir toujours prête une expédition d'articles pour alimenter tel marché aussi loin qu'insatiable. Vous tenir vous-même informé de l'état des marchés, des bruits de guerre et de paix partout, et prévoir les tendances du commerce et de la civilisation, mettant à profit les résultats de tous les voyages d'exploration, usant de nouveaux passages et de tous les progrès de la navigation, les cartes marines à étudier, la position des récifs, des phares nouveaux, des bouées nouvelles à déterminer, et toujours et sans cesse les tables de logarithmes à corriger, car il n'est pas rare que l'erreur d'un calculateur fait que vient se briser sur un rocher tel vaisseau qui eût dû attendre une jetée hospitalière. Il y a le sort inconnu de la Pérouse. La science universelle avec laquelle il faut marcher de pair, en étudiant la vie de tous les grands explorateurs et navigateurs, grands aventuriers et marchands, depuis Hannon et les Phéniciens jusqu'à nos jours. Enfin, le compte des marchandises en magasin à prendre de temps à autre pour savoir où vous en êtes. C'est un labeur à exercer les facultés d'un homme, tous ses problèmes de profit et perte, d'intérêt, de tare et trait, y compris le jaugeage de toutes sortes, qui demande des connaissances universelles. J'ai pensé que l'étang de Walden serait un bon centre d'affaires, non point uniquement à cause du chemin de fer et du commerce de la glace. Il offre des avantages qu'il peut ne pas être de bonne politique de divulguer. C'est un bon port et une bonne base. Pas de marais de la Nieva à combler, quoiqu'il vous faille partout bâtir sur pilotis, enfoncé de votre propre main. On prétend qu'une marée montante, avec vent d'ouest, et de la glace dans la Nieva, balayerait Saint-Pétersbourg de la face de la terre. Attendu qu'il s'agissait d'une affaire où s'engager sans le capital usuel, il peut n'être pas facile d'imaginer où ces moyens, qui seront toujours indispensables à pareille entreprise, se devaient trouver. En ce qui concerne le vêtement, pour en venir tout de suite au côté pratique de la question, peut-être en nous le procurant, sommes-nous guidés plus souvent par l'amour de la nouveauté et certains soucis de l'opinion des hommes que par une véritable utilité. Que celui qui a du travail à faire se rappelle que l'objet du vêtement est en premier lieu de retenir la chaleur vitale et en second lieu, étant donné cet état-ci de société, de couvrir la nudité, sur quoi il évaluera ce qu'il peut accomplir de travail nécessaire ou important sans ajouter à sa garde-robe. Les rois et les reines, qui ne portent un costume qu'une seule fois, quoique fait par quelque tailleur ou couturière de leur majesté, ignore le bien-être de porter un costume qui vous va. Ce ne sont guère que chevalets de bois à pendre les habits du dimanche. Chaque jour, nos vêtements s'assimilent davantage à nous-mêmes, recevant l'empreinte du caractère de qui les porte, au point que nous hésitons à les mettre au rancard, sans tel délai, tels remèdes médicaux et autres solennités de ce genre, tout comme nos corps. Jamais homme ne baissa dans mon estime pour porter une pièce dans ses vêtements. Encore suis-je sûr qu'en général, on s'inquiète plus d'avoir des vêtements à la mode, ou tout au moins bien faits et sans pièces, que d'avoir une conscience solide. Alors que l'accro ne fut-il pas raccommodé, le pire des vices ainsi dévoilés n'est-il peut-être que l'imprévoyance. Il m'arrive parfois de soumettre les personnes de ma connaissance à des épreuves du genre de celle-ci. Qui s'accommoderait de porter une pièce, sinon seulement deux coutures de trop, sur le genou? La plupart font comme si elles croyaient que tel malheur serait la ruine de tout espoir pour elles dans la vie. Il leur serait plus aisé de gagner la vie à cloche-pied avec une jambe rompue qu'avec un pantalon fendu. Arrive-t-il un accident aux jambes d'un monsieur que souvent on peut les raccommoder? Mais semblable accident arrive-t-il aux jambes de son pantalon que le mal est sans remède? Car ce dont il fait cas, c'est non pas ce qui est vraiment respectable, mais ce qui est respecté. Nous connaissons peu d'hommes, mais combien de vestes et de culottes? Habillés de votre dernière chemise en épouvantail, tenez-vous sans chemise à côté, qui ne s'empressera de saluer l'épouvantail? Passant devant un champ de maïs l'autre jour, près d'un chapeau et d'une veste sur un pieu, je reconnus le propriétaire de la ferme. Il se ressentait seulement un peu plus des intempéries que lorsque je l'avais vu pour la dernière fois. J'ai entendu parler d'un chien qui aboyait après tout étranger, approchant du bien de son maître, pourvu qu'il fût vêtu, et qu'un voleur nu faisait taire aisément. Il est intéressant de se demander jusqu'où les hommes conserveraient leur rang respectif si on les dépouillait de leurs vêtements. Pourriez-vous, en pareil cas, dire avec certitude d'une société quelconque d'hommes civilisés, celui qui appartenait à la classe la plus respectée? Lorsque Madame Pfeiffer, dans ses aventureux voyages autour du monde, de l'Est à l'Ouest, eut au retour atteint la Russie d'Asie, elle sentit, dit-elle, la nécessité de porter autre chose qu'un costume de voyage pour aller se présenter aux autorités, car elle était maintenant en pays civilisé, où l'on juge les gens sur l'habit. Il n'est pas jusque dans les villes démocratiques de notre Nouvelle-Angleterre, où la possession accidentelle de la richesse, avec sa manifestation dans la toilette et l'équipage seul, ne vaille au possesseur presque un universel respect. Mais ceux qui dispensent tel respect, si nombreux soient-ils, ne sont à cet égard que païens et réclament l'envoi d'un missionnaire. En outre, les vêtements ont introduit la couture, genre de travail qu'on peut appeler sans fin. Une toilette de femme, en tout cas, jamais n'est terminée. L'homme qui, à la longue, a trouvé quelque chose à faire, n'aura pas besoin d'acheter un costume neuf pour le mettre à cet effet. Selon lui, l'ancien suffira, qui, depuis un temps indéterminé, reste à la poussière dans le grenier. De vieux souliers serviront à un héros plus longtemps qu'ils n'ont servi à son valet, si héros jamais eut valet. Les pieds nus sont plus vieux que les souliers, et il peut les faire aller. Ceux-là seuls qui vont en soirée et fréquentent les salles d'assemblée législative doivent avoir des habits neufs, des habits à changer aussi souvent qu'en eux l'homme change. Mais si mes vestes et culottes, mon chapeau et souliers sont bons à ce que dedans je puisse adorer Dieu, ils feront l'affaire, ne trouvez-vous pas? Qui jamais vit ses vieux habits, sa vieille veste, belle et bien usée, retourner à ses premiers éléments, au point que ce ne fût un acte de charité que de l'abandonner à quelque pauvre garçon, pour être, il se peut, abandonné par lui à quelque autre plus pauvre encore, ou, dirons-nous, plus riche, qui pouvait s'en tirer à moins. Oui, prenez garde à toute entreprise qui réclame des habits neufs, et non pas plutôt un porteur d'habits neufs. Si l'homme n'est pas neuf, comment faire aller les habits neufs? Si vous avez en vue quelque entreprise, faites-en l'essai sous vos vieux habits. Ce qu'il faut aux hommes, ce n'est pas quelque chose avec quoi faire, mais quelque chose à faire, ou plutôt quelque chose à être. Sans doute ne devrions-nous jamais nous procurer de nouveaux costumes, si déguenillés ou sales que soit l'ancien, que nous n'ayons dirigé, entrepris ou navigué en quelque manière, de façon à nous sentir des hommes nouveaux dans cet ancien, et à ce que le garder équivaille à conserver du vin nouveau dans de vieilles outres. Notre saison de mue, comme celle des volatiles, doit être une crise dans notre vie. Le plongeon, pour la passer, se retire aux étangs solitaires. De même aussi le serpent rejette sa dépouille, et la chenille son habit véreux, grâce à un travail et une expansion intérieure. Car les hardes ne sont que notre cuticule et enveloppe mortelle extrême. Autrement, on nous trouvera naviguant sous un faux pavillon, et nous serons inévitablement rejetés par notre propre opinion, aussi bien que par celle de l'espèce humaine. Nous revêtons habit sur habit, comme si nous croissions à la ressemblance des plantes exogènes par addition externe. Nos vêtements extérieurs, souvent minces et illusoires, sont notre épiderme ou fausse peau, qui ne participe pas de notre vie, et dont nous pouvons nous dépouiller par-ci par-là sans sérieux dommage. Nos habits plus épais, constamment portés, sont notre tégument cellulaire ou cortex. Mais nos chemises sont notre libère ou véritable écorce, qu'on ne peut enlever sans encercler et par conséquent détruire l'homme. Je crois que toutes les races, à certains moments, portent quelque chose d'équivalent à la chemise. Il est désirable que l'homme soit vêtu avec une simplicité qui lui permette de poser les mains sur lui dans les ténèbres, et qu'il vive à tous égards dans un état de concision et de préparation tel que l'ennemi, vint-il à prendre la ville, il puisse, comme le vieux philosophe, sortir des portes les mains vides sans inquiétude. Quand un seul habit, en la plupart des cas, en vaut trois légers, et que le vêtement à bon marché s'acquiert à des prix faits vraiment pour contenter le client, quand on peut pour $5 acheter une bonne veste, qui durera un nombre égal d'années, pour $2 un bon pantalon, des chaussures de cuir solides pour $1,50 la paire, un chapeau d'été pour $0.25, et une casquette d'hiver pour $0.62, laquelle, fabriquée chez soi par un coût purement nominal, sera meilleure encore. Où donc si pauvre qui, de la sorte vêtu, sur son propre salaire, ne trouve homme assez avisé pour lui rendre hommage? Demandais-je des habits d'une forme particulière? Que ma tailleuse de répondre avec gravité, on ne les fait pas comme cela aujourd'hui, sans appuyer le moins du monde sur le « on », comme si elle citait une autorité aussi impersonnelle que le destin. Et je trouve difficile de faire faire ce que je veux, simplement parce qu'elle ne peut croire que je veuille ce que je dis, que j'ai cette témérité. Entendant telle sentence d'oracle, je reste un moment absorbé en pensée, et j'appuie intérieurement sur chaque mot l'un après l'autre, afin d'arriver à en déterminer le sens, afin de découvrir suivant quel degré de consanguinité on se trouve apparenté à moi, et l'autorité qu'il peut avoir en une affaire qui me touche de si près. Finalement, je suis porté à répondre avec un égal mystère, et sans davantage appuyer sur le « on ». C'est vrai, on ne les faisait pas comme cela jusqu'alors, mais aujourd'hui on les fait comme cela. À quoi sert de me prendre ces mesures, si, oubliant de prendre celles de mon caractère, elles ne s'occupent que de la largeur de mes épaules, comme qui dirait une patère à pendre l'habit? Ce n'est ni aux grâces ni au parc que nous rendons un culte, mais à la mode. Elle file, tisse et taille en toute autorité. Le Saint-Jean-Chef, à Paris, met une casquette de voyage, sur quoi tous les singes d'Amérique font de même. Je désespère parfois d'obtenir quoi que ce soit de vraiment simple et honnête, fait en ce monde grâce à l'assistance des hommes. Il les faudrait auparavant passer sous une forte presse pour en exprimer les vieilles idées, de façon à ce qu'ils ne se remettent pas sur pied trop tôt, et alors se trouverait dans l'assemblée quelqu'un pour avoir une lubie en tête, éclose d'un œuf déposé là Dieu sait quand, attendu que le feu même n'arrive pas à tuer ces choses, et vous en serez pour vos frais. Néanmoins, nous ne devons pas oublier qu'une momie passe pour nous avoir transmis du blé égyptien. À tout prendre, je crois qu'on ne saurait soutenir que l'habillement s'est, en ce pays plus qu'en n'importe quel autre, élevé à la dignité d'un art. Aujourd'hui, les hommes s'arrangent pour porter ce qu'ils peuvent se procurer. Comme des marins naufragés, ils mettent ce qu'ils trouvent sur la plage et, à petite distance, soit d'étendue, soit de temps, se moquent réciproquement de leur mascarade. Chaque génération rit des anciennes modes tout en suivant religieusement les nouvelles. Nous portons un regard aussi amusé sur le costume d'Henri VIII ou de la reine Élisabeth que s'il s'agissait de celui du roi ou de la reine des îles cannibales. Tout costume, une fois ôté, est pitoyable et grotesque. Ce n'est que l'œil sérieux qui en darde et la vie sincère passée en lui qui réprime le rire et consacre le costume de n'importe qui. Carlequin soit pris de la colique et sa livrée devra servir à cette disposition également. Le soldat est-il atteint par un boulet de canon, que les lambeaux sont aussi saillants que la pourpre. Le goût puéril et barbare, qu'hommes et femmes manifestent pour les nouveaux modèles, fait à Dieu sait combien d'entre eux secouer le kaléidoscope et loucher dedans, afin d'y découvrir la figure particulière que réclame aujourd'hui cette génération. Les fabricants ont appris que ce goût est purement capricieux. De deux modèles qui ne diffèrent que grâce à quelques fils d'une certaine couleur en plus ou en moins, l'un se vendra tout de suite, l'autre restera sur le rayon, quoique fréquemment il arrive qu'à une saison d'intervalle, c'est le dernier qui devient le plus à la mode. En comparaison, le tatouage n'est pas la hideuse coutume pour laquelle il passe. Il ne saurait être barbare du fait seul que l'impression est à fleur de peau et inaltérable. Je ne peux croire que notre système manufacturier soit pour les hommes le meilleur mode de se procurer le vêtement. La condition des ouvriers se rapproche de plus en plus chaque jour de celle des Anglais. Et on ne saurait s'en étonner, puisque, autant que je l'ai entendu dire ou par moi-même observé, l'objet principal est non pas pour l'espèce humaine de se voir bien et honnêtement vêtu, mais, incontestablement, pour les corporations de pouvoir s'enrichir. Les hommes n'atteignent en fin de compte que ce qu'ils visent. Aussi, dussent-ils manquer sur le champ leur but, mieux vaut pour eux viser quelque chose de haut. Pour ce qui est d'un abri, je ne nie pas que ce ne soit aujourd'hui un nécessaire de la vie, bien qu'on ait l'exemple d'hommes qui s'en soient passés durant de longues périodes, en des contrées plus froides que celles-ci. Samuel Lang déclare que le lapon sous ses vêtements de peau et dans un sac de peau qu'il se passe par-dessus la tête et les épaules, dormira toutes les nuits qu'on voudra sur la neige, par un degré de froid auquel ne résisterait la vie de quiconque à ce froid exposé sous n'importe quel costume de laine. Il les avait vus dormir de la sorte. Encore, ajoute-t-il, ils ne sont pas plus endurcis que d'autres. Mais probablement l'homme n'était pas depuis longtemps sur la terre qu'il avait déjà découvert la commodité qu'offre une maison, le bien-être domestique, locution qui peut à l'origine avoir signifié les satisfactions de la maison plus que celles de la famille, toutes partielles et accidentelles qu'elles doivent être sous les climats où la maison s'associe dans nos pensées, surtout à l'hiver et à la saison des pluies. Et les deux tiers de l'année, sauf pour servir de parasol, n'est nullement nécessaire. Sous notre climat, en été, ce fut tout d'abord presque uniquement un abri pour la nuit. Dans les gazettes indiennes, un wigwam était le symbole d'une journée de marche, et une rangée de ces wigwams gravés ou peintes sur l'écorce d'un arbre signifiait que tant de fois on avait campé. L'homme n'a pas été fait si fortement charpenté ni si robuste qu'il ne lui faille chercher à rétrécir son univers et entourer de murs un espace à sa taille. Il fut tout d'abord nu et au grand air, mais malgré le charme qu'il y pouvait trouver en temps calme et chaud, dans le jour, peut-être la saison pluvieuse et l'hiver, sans parler du soleil torride, eussent-ils détruit son espèce en germe s'il ne se fût hâté d'endosser le couvert d'une maison. Adam et Ève, suivant la fable, revêtirent le berceau de feuillage avant autre vêtement. Il fallut à l'homme un foyer un lieu de chaleur ou de bien-être, d'abord de chaleur physique, puis la chaleur des affections. Il est possible d'imaginer un temps où, en l'enfance de la race humaine, quelque mortel entreprenant s'insinua en un trou de rocher pour abri. Tout enfant recommence le monde jusqu'à un certain point, et se plaît à rester dehors, fût-ce dans l'humidité et le froid. Il joue à la maison tout comme au cheval, poussé en cela par un instinct. Qui ne se rappelle l'intérêt avec lequel, étant jeune, il regardait les rochers en surplomb ou les moindres abords de cavernes? C'était l'aspiration naturelle de cette part d'héritage laissée par notre plus primitif ancêtre qui survivait encore en nous. De la caverne, nous sommes passés au toit de feuilles de palmier, d'écorce et de branchages, de toiles tissées et tendues, d'herbes et paille, de planches et bardeaux, de pierres et tuiles. À la fin, nous ne savons plus ce que c'est que de vivre en plein air, et nos existences sont domestiques sous plus de rapports que nous ne pensons. De l'âtre au champ, grande est la distance. Peut-être serait-ce un bien pour nous d'avoir à passer plus de nos jours et de nos nuits sans obstacle entre nous et les corps célestes, et que le poète parla moins de sous un toit, ou que le saint n'y demeura pas si longtemps. Les oiseaux ne chantent pas dans les cavernes, pas plus que les colombes ne cultivent leur innocence dans les colombiers. Toutefois, se propose-t-on de bâtir une demeure, qu'il convient de montrer quelque sagacité yankee, pour ne pas, en fin de compte, se trouver à la place dans un asile de pauvres, un labyrinthe sans fil, un musée, un hospice, une prison ou quelques splendides mausolées. Réfléchissez d'abord à la légèreté que peut avoir l'abri absolument nécessaire. J'ai vu des Indiens Penobscot, en cette ville, habiter des tentes de minces cotonnades alors que la neige était épaisse de près d'un pied autour d'eux. Et je songeais qu'ils eussent été contents de l'avoir plus épaisse pour écarter le vent. Autrefois, lorsque la façon de gagner ma vie honnêtement, en ayant du temps de reste pour mes travaux personnels, était une question qui me tourmentait plus encore qu'elle ne fait aujourd'hui, car malheureusement je me suis quelque peu endurci, j'avais coutume de voir le long de la voie du chemin de fer une grande boîte de 6 pieds de long sur 3 de large, dans quoi les ouvriers serraient leurs outils le soir. Et l'idée me vint que tout homme, à la rigueur, pourrait, moyennant un dollar, s'en procurer une semblable, pour, après y avoir percé quelques trous de vrille, afin d'y admettre au moins l'air, s'introduire dedans lorsqu'il pleuvait et le soir, puis fermer le couvercle au crochet, de manière à avoir la liberté en son amour et être libre en son âme. Il ne semblait pas que ce fût la pire, ni à tout prendre, une méprisable alternative. Vous pouviez veiller aussi tard que bon vous semblait, et à quelque moment que vous vous leviez, sortir sans avoir le propriétaire du sol ou de la maison à vos trousses rapport au loyer. Maint homme se voit harcelé à mort pour payer le loyer d'une boîte plus large et plus luxueuse, qui n'eût pas gelé à mort en une boîte comme celle-ci. Je suis loin de plaisanter. L'économie est un sujet qui admet de se voir traité avec légèreté, mais dont on ne saurait se départir de même. Une maison confortable, pour une race rude et robuste, qui vivait le plus souvent dehors, était jadis faite ici presque entièrement de tels matériaux que la nature vous mettait tout près sous la main. Gookin, qui fut surintendant des Indiens sujets de la colonie de Massachusetts, écrivant en 1674, déclare « Les meilleures de leurs maisons sont couvertes fort proprement, de façon à tenir calfeutrées et au chaud, d'écorces d'arbres, détachées de leur tronc autant où l'arbre est en sève, et transformées en grandes écailles grâce à la pression de fortes pièces de bois lorsqu'elles sont fraîches. Les maisons plus modestes sont couvertes de nattes qu'ils fabriquent à l'aide d'une espèce de jonc, et elles aussi tiennent passablement calfeutrées et au chaud, sans valoir toutefois les premières. J'en ai vu de 60 ou 100 pieds de long sur 30 de large. Il m'est arrivé souvent de loger dans leur wigwam, et je les ai trouvés aussi chauds que les meilleures maisons anglaises. Il ajoute qu'à l'intérieur le sol était ordinairement recouvert, et les murs tapissés de nattes brodées d'un travail excellent, et qu'elles étaient meublées d'ustensiles divers. Les Indiens étaient allés jusqu'à régler l'effet du vent au moyen d'une natte suspendue au-dessus du trou qui s'ouvrait dans le toit, émue par une corde. Dans le principe, un abri de ce genre se construisait en un jour ou deux tout au plus, pour être démoli et emporté en quelques heures. Et il n'était pas de famille qui ne possédât la sienne ou son appartement en l'une d'elles. À l'état sauvage, toute famille possède un abri valant les meilleurs et suffisant pour ses besoins primitifs et plus simples. Mais je ne crois pas exagérer en disant que si les oiseaux du ciel ont leur nid, les renards leur tanière et les sauvages leur wigwam, il n'est pas dans la société civilisée moderne plus de la moitié des familles qui possèdent un abri. Dans les grandes villes et cités, où prévaut spécialement la civilisation, le nombre de ceux qui possèdent un abri n'est que l'infime minorité. Le reste paie pour ce vêtement le plus extérieur de tous, devenu indispensable été comme hiver, un tribut annuel qui suffirait à l'achat d'un village entier de wigwams indiens, mais qui pour l'instant contribue au maintien de sa pauvreté sa vie durant. Je ne veux pas insister ici sur le désavantage de la location comparé à la possession. Mais il est évident que si le sauvage possède en propre son abri, c'est à cause du peu qu'il coûte. Tandis que si l'homme civilisé loue en général le sien, c'est parce qu'il n'a pas le moyen de le posséder. Pas plus qu'il ne finit à la longue par avoir davantage le moyen de le louer. Mais, répond-on, il suffit aux civilisés pauvres de payer cette taxe pour s'assurer une demeure qui est un palais comparé à celle du sauvage. Une redevance annuelle de 25 à 100 dollars, tels sont les prix du pays, lui donne droit aux avantages des progrès réalisés par les siècles, appartements spacieux, peinture et papier frais, cheminée Rumford, enduit de plâtre, jalousie, pompe en cuivre, serrure à ressort, l'avantage d'une cave et maintes autres choses. Mais comment se fait-il que celui qui passe pour jouir de tout cela soit si communément un civilisé pauvre, alors que le sauvage qui ne le possède pas soit riche comme un sauvage? Si l'on affirme que la civilisation est un progrès réel dans la condition de l'homme, et je crois qu'elle l'est, mais que les sages seulement utilisent leurs avantages, il faut montrer qu'elle a produit de meilleures habitations sans les rendre plus coûteuses. Or, le coût d'une chose est le montant de ce que j'appellerais la vie requise en échange, immédiatement ou à la longue. Une maison moyenne dans ce voisinage coûte peut-être 800 dollars, et pour amasser cette somme, il faudra de 10 à 15 années de la vie du travailleur, même s'il n'est pas chargé de famille. En estimant la valeur pécuniaire du travail de chaque homme à 1 dollar par jour, car si certains reçoivent plus, d'autres reçoivent moins, de sorte qu'en général, il lui aura fallu passer plus de la moitié de sa vie avant d'avoir gagné son wigwam. Le supposons-nous, au lieu de cela, payer un loyer, que c'est tout simplement le choix douteux entre deux maux. Le sauvage eût-il été sage d'échanger son wigwam contre un palais à de telles conditions? On devinera que je ramène, autant qu'il y va de l'individu, presque tout l'avantage de garder une propriété superflue comme fonds en réserve pour l'avenir, surtout pour supporter le défraiement des dépenses funéraires. Mais peut-être l'homme n'est-il pas requis de s'ensevelir lui-même. Néanmoins, voilà qui indique une distinction importante entre le civilisé et le sauvage. Et sans doute a-t-on des intentions sur nous pour notre bien, en faisant de la vie d'un peuple civilisé une institution dans laquelle la vie de l'individu se voit à un degré considérable absorbée en vue de conserver et perfectionner celle de la race. Mais je désire montrer grâce à quel sacrifice s'obtient actuellement cet avantage et suggérer que nous pouvons peut-être vivre de façon à nous assurer tout l'avantage sans avoir en rien à souffrir du désavantage. Qu'entendez-vous en disant que le pauvre, vous l'avez toujours avec vous, ou que les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en sont agacées? Je suis vivant, dit le Seigneur, vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Si j'envisage mes voisins, les fermiers de Concorde, au moins aussi à leur aise que les gens des autres classes, je constate que pour la plupart, ils ont peiné 20, 30 ou 40 années pour devenir les véritables propriétaires de leur ferme, qu'en général ils ont hérité avec des charges ou acheté avec de l'argent emprunté à intérêt. Et nous pouvons considérer un tiers de ce labeur comme représentant le coût de leur maison, mais qu'ordinairement ils n'ont pas encore payé. Oui, les charges quelquefois l'emportent sur la valeur de la ferme, au point que la ferme elle-même devient toute une lourde charge, sans qu'il manque de se trouver un homme pour en hériter, lequel déclare la connaître à fond, comme il dit. M'adressant aux répartiteurs d'impôts, je m'étonne d'apprendre qu'ils sont incapables de nommer d'emblée 12 personnes de la ville en possession de fermes franches et nettes de toute charge. Si vous désirez connaître l'histoire de ces domaines, interrogez la banque où ils sont hypothéqués. L'homme qui a bel et bien payé sa ferme grâce au travail fourni dessus est si rare que tout voisin peut le montrer du doigt. Je me demande s'il en existe 3 à Concorde. Ce qu'on a dit des marchands, qu'une très forte majorité, même 97%, sont assurés de faire faillite, est également vrai des fermiers. Pour ce qui est des marchands, cependant, l'un d'eux déclare avec justesse que leurs faillites, en grande partie, ne sont pas de véritables faillites pécuniaires, mais de simples manquements à remplir leurs engagements, parce que c'est incommode. Ce qui revient à dire que c'est le caractère moral qui s'effondre. Mais voilà qui aggrave infiniment le cas, et suggère en outre que selon toute probabilité, les 3 autres eux-mêmes ne réussissent pas à sauver leurs âmes, et sont peut-être banqueroutiers dans un sens pire que ceux qui font honnêtement faillite. La banqueroute et la dénégation des dettes sont les tremplins d'où s'élance pour opérer ces culputes pas mal de notre civilisation, tandis que le sauvage, lui, reste debout sur la planche non élastique de la famine. N'empêche que le concours agricole du Middlesex se passe ici chaque année avec éclat, comme si tous les rouages de la machine agricole étaient bien graissés. Le fermier s'efforce de résoudre le problème d'une existence suivant une formule plus compliquée que le problème lui-même. Pour se procurer ses cordons de souliers, il spécule sur des troupeaux de bétail. Avec un art consommé, il a tendu son piège à l'aide d'un cheveu pour attraper confort et indépendance. Et voilà qu'en faisant demi-tour, il s'est pris la jambe dedans. Voilà pourquoi il est pauvre. Et c'est pour semblable raison que tous nous sommes pauvres relativement à 1000 conforts sauvages, quoique entourés de luxe. Comme le chante Chapman, la fausse société des hommes, pour la grandeur terrestre, dissout à néant toute douceur céleste. Et lorsque le fermier possède enfin sa maison, il se peut qu'au lieu d'en être plus riche, il en soit plus pauvre, et que ce soit la maison qui le possède. Si je comprends bien, ce fut une solide objection présentée par Momus contre la maison que bâtit Minerve, qu'elle ne l'avait pas faite mobile, grâce à quoi l'on pouvait éviter un mauvais voisinage. Et encore peut-on la présenter, car nos maisons sont une propriété si difficile à remuer que bien souvent nous y sommes en prison plutôt qu'en un logis. Et le mauvais voisinage à éviter est bien la gale qui nous ronge. Je connais en cette ville-ci une ou deux familles, pour le moins, qui, depuis près d'une génération, désirent vendre leur maison située dans les environs pour aller habiter le village, sans pouvoir y parvenir, et que la mort seule délivrera. Il va sans dire que la majorité finit par être à même soit de posséder, soit de louer la maison moderne avec tous ses perfectionnements. Dans le temps qu'elle a passé à perfectionner nos maisons, la civilisation n'a pas perfectionné de même les hommes appelés à les habiter. Elle a créé des palais, mais il était plus malaisé de créer des gentilshommes et des rois. Et si le but poursuivi par l'homme civilisé n'est pas plus respectable que celui du sauvage, si cet homme emploie la plus grande partie de sa vie à se procurer uniquement un nécessaire et un bien-être grossier, pourquoi aurait-il une meilleure habitation que l'autre ? Mais quel est le sort de la pauvre minorité? Peut-être reconnaîtra-t-on que juste dans la mesure où les uns se sont trouvés au point de vue des conditions extérieures placés au-dessus du sauvage, les autres se sont trouvés dégradés au-dessous de lui. Le luxe d'une classe se voit contrebalancé par l'indigence d'une autre. D'un côté le palais, de l'autre les hôpitaux et le pauvre honteux. Les myriades qui bâtirent les pyramides, destinées à devenir les tombes des pharaons, étaient nourries d'ail, et sans doute n'étaient pas elles-mêmes décemment enterrées. Le maçon qui met la dernière main à la corniche du palais retourne le soir peut-être à une hutte qui ne vaut pas un wigwam. C'est une erreur de supposer que dans un pays où existent les témoignages usuels de la civilisation, la condition d'une très large part des habitants ne peut être aussi avilie que celle des sauvages. Je parle des pauvres avilis, non pas pour le moment des riches avilis. Pour l'apprendre, nul besoin de regarder plus loin que les cabanes qui partout bordent nos voies de chemin de fer, ce dernier progrès de la civilisation. Où je vois en mes tournées quotidiennes des êtres humains vivre dans des porcheries, et tout l'hiver la porte ouverte pour laisser entrer la lumière sans la moindre provision de bois apparente, souvent imaginable, où les formes des jeunes comme des vieux sont à jamais ratatinées par la longue habitude de trembler de froid et de misère, où le développement de tous leurs membres et facultés se trouve arrêté. Il est certainement bon de regarder cette classe grâce au labeur de laquelle s'accomplissent les travaux qui distinguent cette génération. Telle est aussi, à un plus ou moins haut degré, la condition des ouvriers de tout ordre en Angleterre, le grand workhouse du monde. Encore pourrais-je vous renvoyer à l'Irlande, que la carte présente comme une de ces places blanches ou éclairées. Mettez en contraste la condition physique de l'Irlandais avec celle de l'Indien de l'Amérique du Nord, ou de l'insulaire de la mer du Sud, ou de toute autre race sauvage, avant qu'elle se soit dégradée au contact de l'homme civilisé. Cependant, je n'ai aucun doute que ceux qui gouvernent ce peuple ne soient doués d'autant de sagesse que la moyenne des gouvernants civilisés. Sa condition prouve simplement le degré de malpropreté compatible avec la civilisation. Guère n'est besoin de faire allusion maintenant aux travailleurs de nos États du Sud, qui produisent les objets principaux d'exportation de ce pays et ne sont eux-mêmes qu'un produit marchand du Sud. Je m'en tiendrai à ceux qui passent pour être dans des conditions ordinaires.